Je signale que le message que je vais donner sera à nouveau délivré ce soir. La différence étant que les jeunes ont besoin de diapos pour suivre ce que l'on dit. Et donc, il y aura ce soir des diapos. Mais vous n'en avez pas besoin. Je dois avoir entre 6 et 7 ans. Et oui, moi aussi j'ai été jeune, même si cela fait un certain temps. Je dois avoir entre 6 et 7 ans, donc, et mon père me propose une promenade à deux. Je n'en crois pas à mes oreilles. J'accepte aussitôt. La nuit tombe. Le chemin qui longe la moraine est mal éclairé, je me tiens tout près de mon père. Nous marchons longtemps, mon père ne parle pas, mais il est là et cela me suffit. Soudain, le vent se lève, violent, les rafales nous obligent à nous courber. Surtout, le vent siffle, il hurle même à travers les poteaux électriques fendus que nous dépassons. J'ai peur, j'ai très peur même, mais n'ose l'avouer. C'est alors qu'il, mon père, prend ma main dans la sienne. Mais alors, une vraie main d'homme, pas ces mains de gras de papier qu'on trouve à Paris. Une vraie main d'homme, large, épaisse, puissante, rugueuse, une vraie main d'homme. Et je suis apaisé. Ainsi tenu, je ne crains plus rien. La tempête peut faire rage, je suis en sécurité. Personne n'est plus fort que mon père, faut que vous le sachiez. Et il me tient tout contre lui. Ce ne sont pas les tempêtes qui manquent ici-bas, et certaines d'entre elles nous touchent actuellement. Certains sont touchés ce matin. Oui, certaines épreuves nous touchent, nous éprouvent, mais nous nous en relevons. D'autres, plus violentes, nous couchent littéralement. Un licenciement, une maladie grave, une très mauvaise nouvelle, un deuil. La question alors est celle-ci, que faire ? Que faire ? Dans ces périodes de gros temps où la tourmente menace de nous casser, nous, de nous abattre, de nous emporter, que faire? Et si la réponse se trouvait dans le texte admirable que nous nous sommes donné comme mot d'ordre pour l'année nouvelle? Et si la réponse se trouvait dans ce texte? Je le cite à nouveau, il est extrait du livre des Chroniques, chapitre 16, le verset 11. Ayez recours à l'Éternel et à sa force, recherchez constamment sa présence. Pas mal, non? À condition, bien sûr, d'en bien comprendre le sens, ce que nous allons nous efforcer, je dis bien nous efforcer de faire, dans les moments qui suivent. Le contexte. Tout d'abord, le contexte, il est important, il est même essentiel. Ce verset est extrait d'un cantique que nous lirons peut-être ce soir, que nous n'avons pas lu ce matin, faute de temps. Il est extrait d'un cantique que je vous invite à lire pour vous-même en rentrant tout à l'heure. Et pas n'importe quel cantique. Un hymne de reconnaissance somptueux que nous attribuons volontiers au roi David, inspiré comme il l'est, et que chante pour la première fois Asaph, le chef de chœur, et, nous est-il dit, ses frères, à l'occasion de l'installation solennelle de l'Arche de l'Alliance sur le mont Sion à Jérusalem. Quelques explications s'imposent ici. L'Arche de l'Alliance, à l'époque, pour ceux qui ne le sauraient pas, et il y en a peut-être, est un coffret Un coffret d'un mètre 25 de long, 75 de large et 75 de haut, dans lequel sont renfermées, nous dit-on, les 10 paroles écrites du doigt de Dieu sur la pierre. Les 10 commandements. Mais c'est surtout l'Arche de l'Alliance, c'est d'elle que je parle, le signe visible de la présence divine. La plaque d'or qui le recouvre est surmontée par 2 chérubins, 2 anges donc, entre lesquels siège, si je puis dire, l'Éternel. D'où l'importance de l'avoir toujours à portée. Sa seule vue atteste que le Dieu de l'Alliance est bien là, au milieu de son peuple, pour le protéger, le guider, l'instruire et entendre sa prière. Le problème est que cette arche, cela fait un bon moment maintenant que les Israélites s'en sont totalement désintéressés. Une indifférence coupable qui en dit long sur les rapports distendus qu'ils entretiennent avec leur Dieu. C'est au point que personne ne s'émeut plus de ce qu'elle se trouve maintenant à Kiriat Jearim, aux mains des Philistins, leurs ennemis jurés, pourtant. Personne, sauf David, dont le projet est simple, la faire ramener cette arche et installer au cœur même de Jérusalem. Pourquoi ? D'abord, pour conférer à la cité la dignité d'une capitale, ensuite, pour faire d'elle le centre spirituel de son royaume, enfin et surtout pour s'assurer une bonne fois la présence de Dieu à son côté et sécuriser ainsi son peuple. Et nous voici revenus à notre point de départ, le chant par Asaph et ses frères d'un cantique magnifique spécialement composé pour l'occasion. L'arrivée en grande pompe, au son, lisons-nous, des clairons, des trompettes, des cymbales, des luttes et des harpes, et sous les ovations d'une foule en liesse, l'arrivée de l'arche, précieux emblème d'une présence divine, divinement, définitivement favorable. L'arrivée de cette présence à Jérusalem, un moment si fort que le roi lui-même n'y tient plus. C'est ce que nous rapporte le chroniqueur. Il saute et danse au point de passer pour fou aux yeux de son épouse. Mais que lui importe ce regard de femme, seul compte pour lui l'heureuse nouvelle. L'Éternel réside à nouveau au milieu de son peuple. Une présence qu'il sait lourde de nombreuses et belles promesses. Voilà pour le contexte de notre verset, un contexte ancien, 3000 ans et les poussières, et pourtant étrangement proche du nôtre. J'ai bien dit du nôtre. J'en vois qui ont l'air étonnés. Faut-il alors que je m'explique ? Sans doute. Eh bien, allons-y. Ne sommes-nous pas, nous-mêmes, dans la joie aujourd'hui ? Et si nous sommes dans la joie aujourd'hui, n'est-ce pas parce que nous aussi, nous avons vu revenir, si je puis dire, le Seigneur ? Revenir pour établir à nouveau parmi nous sa résidence. Permettez que je vous rappelle ici l'heureuse nouvelle. L'Éternel s'est rapproché de nous. L'Éternel s'est rapproché de nous. Parce qu'il s'était éloigné ? En quelque sorte, oui. En quelques mots, la Bible sur ce point est sans équivoque. En refusant, comme nous l'avons fait dès le commencement, de nous soumettre à l'autorité pourtant bienveillante de notre Créateur, nous l'avons offensé. Et offensé gravement. Et puisque, pour ainsi dire, nous le prions de ne plus se mêler de notre vie, il s'en est comme retiré. Ce que nous ne savions pas est qu'en nous privant ainsi volontairement de lui, nous nous coupions de la vie. Car il ne devient vrai, de vie pleine, de vie éternelle, que dans sa communion. Mais le fait est qu'alors, nous sommes morts. Le salaire du péché, avait dit Dieu, c'est la mort. Nous avions péché. Nous étions morts. Nous pouvions bomber le torse, fiers que nous étions de ne plus dépendre que de nous-mêmes. Nous étions condamnés, irrémédiablement. Enfin, irrémédiablement. Pas vraiment. Car, et c'est ici l'heureuse nouvelle, Dieu ne s'est jamais accommodé de cette rupture, jamais. De cette rupture funeste entre toutes, pour vous, pour moi, pour nous, jamais. Et c'est ainsi qu'au moment de son choix, après qu'il se fut longtemps éloigné de nous, il s'est à nouveau rapproché. Rapproché, nous l'avons dit et redit récemment, en Jésus. En Jésus. Non plus symboliquement comme à Jérusalem, du temps de David, sous la forme d'un coffret étincelant, mais réellement, en une personne unique, savoir son propre Fils. Car c'est bien lui qui, en Jésus, lui l'Éternel, qui, en Jésus, est venu à notre rencontre et nous a visités. Jésus, alias Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus, reflet de sa gloire, nous dit la lettre aux Hébreux, expression de sa personne. Jésus en qui demeure à jamais toute sa plénitude. Jésus, Dieu fait homme, Dieu fait homme. Fait homme pourquoi ? Pour habiter parmi nous, plein de grâce et de vérité. Pas seulement venu habiter parmi nous pour faire la paix avec nous. Et nous savons que sa visite n'a pas été vaine, puisque en Jésus toujours, il nous a pleinement et définitivement réconciliés avec lui. Comment ? Eh bien, nous le rappelions il y a quelques instants en chargeant celui qui n'avait pas connu le péché. Jésus, donc, de toutes nos fautes, passé et à venir, pour qu'il en paie lui et pas nous l'effroyable prix. Et là, je dis, redis, mystère insondable de sa grâce. Mystère insondable de sa grâce. En Jésus, Dieu avait choisi de subir lui-même le châtiment qui nous donne la paix. Et voici, dit un jour, celui que son père, entre-temps, avait rendu à la vie. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comme David, donc, nous pouvons avoir l'esprit en fête ce matin. Et peut-être sauter même, encore que je n'en vois pas beaucoup, esquisser le moindre mouvement dans ce sens, et danser même, ça vaut sans doute mieux pour nous tous. Car Dieu est revenu habiter parmi nous. Jésus, l'Éternel en personne, fait homme, est au milieu de nous. Pour toujours. Et avec pour projet étonnant, après qu'il nous a fait revivre en nous reliant à nouveau à Dieu, de nous accorder, dit l'Écriture, grâce sur grâce, sur grâce, sur grâce, sur grâce. Encore faut-il, pour qu'il puisse nous combler ainsi, que nous, oui, nous recourions à lui et cherchions sa présence. C'est ce qu'avait parfaitement compris en son temps déjà l'auteur bien inspiré de notre cantique, d'où son invitation adressée à tout le peuple, ma paraphrase cette fois, « Maintenant que l'Éternel est de retour parmi nous, ayez recours à lui et à sa force, rechercher constamment sa face. Après l'heureuse nouvelle, donc, l'Éternel s'est rapproché de nous. L'appel pressant, puisqu'il s'est rapproché de nous, rapprochons-nous de lui. Rapprochons-nous de lui. Deux questions ici. Rapprochons-nous de qui ? Et rapprochons-nous de lui, oui, mais pourquoi ? De qui faut-il que nous nous rapprochions ? Le texte nous le dit, de l'Éternel. L'Éternel. L'Éternel, le nom divin par excellence, celui par lequel Dieu s'est fait connaître à Moïse et dont nous peinons depuis à rendre la richesse. Littéralement, je suis. Par quoi il nous faut comprendre tout à la fois celui qui est, par opposition à ce qui n'est pas ou qui n'a pas toujours été. Celui qui subsiste, par opposition à ce qui passe. Celui qui est ce qu'il choisit d'être, par opposition à ce qui est déterminé par son environnement. Celui qui reste qui il est, par opposition à ce qui change. Celui enfin qui est toujours là, par opposition à ce qui bouge. Et peut-être est-ce ce dernier sens qu'il nous faut privilégier dans l'extrait de cantique qui nous occupe ce matin. L'Éternel, en tant que celui qui ne saurait s'éloigner de ceux dont il s'est rapproché. Dois-je vous rappeler la promesse de Jésus, « Je suis avec vous », alors jusqu'à quand ? Je suis avec vous. J'entends pas la salle bleue, là. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. Or, qui est Jésus qui prononce cette phrase ? Sinon, l'Éternel en personne. L'Éternel en personne. Combien de fois, en effet, n'a-t-il pas répété à ses disciples « Je suis ». Et confirmer ainsi la divine inspiration du prophète Ésaïe, qui en son temps déjà annonçait « On l'appellera », et c'est de Jésus qu'il parle, « Père éternel ». Père éternel. Il y en a qui sautent et qui dansent derrière. Eux ont compris que la nouvelle était bonne. À la question donc de qui faut-il que nous nous rapprochions, nous répondons donc avec Asaph et ses frères, David et tout le peuple de Jérusalem en liesse, l'Éternel. Mais conscients, nous, que ce Dieu, c'est en Jésus que nous pouvons le rencontrer aujourd'hui, en Jésus. Jésus, l'Éternel, fait homme, pour nous signifier, au sens fort du terme, sa proximité. Emmanuel, Dieu avec nous. Pourquoi ? Pour que nous puissions précisément le rencontrer. Mais pourquoi le rencontrer ? C'est notre deuxième question, notre dernière. Pourquoi faut-il que nous nous rapprochions de lui ? La réponse est dans notre texte, là encore, et elle est double. Un, pour recevoir de lui les forces dont nous avons besoin. Et deux, pour connaître la joie que procure sa communion. Pour recevoir de lui les forces dont nous avons besoin, d'abord. Ayez recours à l'Éternel et à sa force, conseille notre texte. Autrement dit, rapprochez-vous du Tout-Puissant pour qu'il vous fortifie. Et ce d'autant plus que vous vous sentez trop faible ce matin pour tenir bon dans la situation délicate, quelle qu'elle soit. Qui est la vôtre. Non, contrairement au slogan bien connu, la force n'est pas en nous. La force n'est pas en nous. Allons donc la chercher, nous conseille le poète, là où elle est, en lui, lui dont le nom glorieux, et je parle de Jésus, manifestation de Dieu, est aussi, Ésaïe 9, Dieu fort. Père éternel, Dieu fort. Parce que nous est-il dit, lui, je cite, ne se fatigue ni ne s'épuise, mais aime à donner de la force à celui qui est fatigué et multiplier les ressources de celui qui est à bout. Oui, mais comment ? Comment le Dieu fort nous communique-t-il ses ressources ? Rapidement, très rapidement, sans nier qu'il puisse nous les transmettre directement, en sorte que nous soyons, pour reprendre l'admirable formule de l'apôtre Paul, fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérants et patients. Je dirais qu'il choisit généralement de le faire indirectement, laissant, si je puis m'exprimer ainsi, à la contemplation de sa gloire, le soin d'affermir parfaitement ses adorateurs. Je m'explique, c'est pour moi un point fondamental. C'est le plus souvent, je dis bien le plus souvent, en nous accordant une vision nouvelle de l'éblouissante splendeur de son être, que le Dieu fort nous relève, nous réconforte, nous appelle, nous fortifie, nous raffermit. C'est pourquoi notre force, autrement dit notre capacité d'endurer les épreuves avec patience et persévérance, notre capacité d'endurer les épreuves avec patience et persévérance, sans leur permettre jamais de nous éloigner, ne serait-ce qu'un peu ou pour un temps du Seigneur, notre force, donc, sera toujours à la mesure exacte de notre connaissance de Dieu et de la foi que nous ajouterons à tout ce qui nous aura été révélé de lui. Pour vous donc, qui ce matin êtes inquiets ou anxieux ou angoissés, pour vous qui avez, ce n'est pas exclu, le cafard, comme on dit, ou qui êtes en dépression, pour vous qui n'en pouvez plus et qui craignez de vous écrouler bientôt, je n'ai qu'un conseil, un seul: arrêtez-vous un instant. Arrêtez-vous et contemplez votre Dieu. Exposez-vous longuement au rayonnement bienfaisant, lui s'il en est, de sa puissance, de son sagesse et de son amour infini. Et je ne doute pas que vous pourrez à votre tour rendre personnellement témoignage aux vertus éminemment thérapeutiques de cet excellent exercice spirituel. Et chanter avec les fils de Corée, heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Pour qui donc, pourquoi donc nous rapprocher de l'Éternel pour recevoir de lui les forces dont nous avons besoin, pour lui rester fidèlement attachés, car tel est bien le but jusqu'à la fin. Mais aussi, nous l'avons dit, pour connaître la joie que procure sa communion, rechercher constamment sa présence. Rechercher constamment sa présence, nous recommande le psalmiste. Par quoi nous entendons que votre priorité soit toujours d'être près de lui. Pourquoi ? Tout simplement parce que notre Dieu est un Dieu qui aime rendre heureux. Il est comme ça. Un Dieu lui-même, nous dit l'Écriture, l'apôtre Paul en particulier, lui-même bienheureux. Qui ne se lasse pas d'offrir à tous ceux qui se confient en lui en particulier, de venir partager sa joie. Je dis bien venir, car pour que sa joie nous inonde, il nous faut toujours nous rapprocher de lui. Ce n'est que lorsque nous tournons vers lui les regards, pour le contempler dans tout l'éclat de ses innombrables perfections, que sa lumière nous atteint. Et que nous sommes non seulement fortifiés, comme nous l'indiquions un peu plus tôt, mais encore, et là je cite le psaume 34 et verset 6, rayonnant de joie. ou comme le rend si bien la Nouvelle Bible Second, radieux. Radieux. Pourquoi croyez-vous que David en particulier chantait comme il chantait, psaume 16, « Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. » Psaume 31, « Mon allégresse, ma joie, je les trouve en ta grâce. » Psaume 23, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Pourquoi ? Parce que lui recherchait constamment la présence de l'Éternel. C'est pourquoi il pouvait témoigner, lui, du bonheur que procure sa communion. Alors, saurons-nous suivre aujourd'hui son exemple ? C'est ma prière, bien sûr, que jour après jour, nous nous fassions un devoir, sinon un plaisir, de nous rapprocher de lui. Nous rapprocher de lui en sondant sa parole, en dialoguant avec lui, en le priant. Dans les jours de grand beau, où le ciel lui-même semble nous sourire, pour lui dire notre joie immense de l'avoir pour ami, pour conseiller, pour protecteur, dans les jours de grand beau, et il y en a, heureusement, et dans les périodes de gros temps, où la tourmente menace de nous emporter, pour lui confier notre sort avec cette assurance qu'il, l'Éternel, prend soin de nous. Et qu'il veillera personnellement à ce que nous fassions alors l'expérience surnaturelle de sa paix, laquelle, nous dit l'apôtre Paul, dépasse et de loin tout ce que l'on peut comprendre. Ne cherchez pas. Ce n'est pas possible. Et tout cela en attendant la délivrance. Car notre ami suprême est ainsi. Il ne souffre pas que nous soyons longtemps malheureux. Et si, pour un peu de temps encore, il permet qu'au soir arrivent les pleurs, il s'assurera bientôt qu'au matin, l'allégresse revienne. Et revienne pour l'emporter à jamais. Autant dire que nous savons ce matin que notre histoire, quelle qu'elle soit, je dis bien quelle qu'elle soit, se terminera bien. Peut-être pas demain, mais si pas demain, après-demain. Et si pas après-demain, le jour tout proche maintenant, ou après qu'il nous aura fait entrer enfin dans sa présence immédiate cette fois, l'Éternel veillera lui-même à ce qu'une joie éternelle couronne notre tête. Alors nous assure l'antique prophétie, la gaieté et la joie viendront à notre rencontre. La gaieté et la joie, bras dessous, viendront à notre rencontre. Tandis que le chagrin et les gémissements, eux, détaleront. C'est pas beau, ça ? Et je cite la parole de Dieu. Le chagrin et le gémissement détaleront. Pour toujours. Un témoignage confirmé, d'ailleurs, par la voix forte venue du ciel. Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Je cite l'Apocalypse ici. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni assemblée générale, ni deuil, ni cri, ni douleur. Car ce qui existait avant a disparu à jamais. Conclusion. Nous avons commencé par poser la question, que faire dans les périodes de gros temps ? Que faire dans les périodes de gros temps ? Nous avons estimé alors que notre texte nous livrait la réponse. 1. Nous rappeler que l'Éternel s'est rapproché de nous et qu'il est désormais à jamais au milieu de nous, à côté de nous, l'Éternel. À côté de nous. Et 2, nous laisser convaincre de nous approcher maintenant de lui pour puiser dans sa connaissance, dans sa communion, dans notre dialogue avec lui, les forces dont nous avons besoin pour rester ferme dans notre foi et pur dans notre conduite et savourer dans sa communion le réconfort, la paix et la joie que seul procure sa présence. Le moment est venu maintenant de passer à l'action. Et je dirais, pas seulement dans les périodes de gros temps, en tout temps, aujourd'hui. Amen.